le cardinal Newman, un spirituel pour notre temps. Voici la seconde et dernière partie de l'intervention du père Kate Beaumont de l'Oratoire de France, président de l'Association française des Amis de Newman. Une conférence enregistrée le 19 mai 2009 à la maison diocésaine de Bayonne. Voici donc la deuxième partie de l'intervention du père Kate Beaumont, le cardinal Newman, un spirituel pour notre temps.
Je voudrais vous donner simplement quelques aspects de son enseignement à ce sujet. Comme les pères de l'Église, il insiste sur l'importance d'une conception trinitaire de Dieu, qui relie le Père, le Fils et l'Esprit-Saint, et qui voit en Dieu une source, la source, d'une communication de vie. Il nous rappelle la place centrale dans la vie chrétienne de l'Esprit-Saint. Alors vous me direz peut-être que, à la différence du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe, où on ne parlait guère de l'Esprit-Saint, les chrétiens aujourd'hui en parlent beaucoup, mais justement, le plus souvent, ils en parlent. Ils ne font qu'en parler. L'Esprit-Saint reste un simple concept, une simple idée. Nous sommes loin d'avoir compris la dynamique spirituelle que cherche à traduire le dogme de la Trinité. Pour Newman, au contraire, le chrétien doit non seulement penser à l'Esprit-Saint, mais vivre de sa présence en nous. Il découvre ou redécouvre, chez les pères de l'Église, la doctrine déjà présente dans les écrits de saint Jean et de saint Paul, de ce qu'on appelle l'inhabitation de l'Esprit-Saint. Alors le mot français « inhabitation » est un peu barbare. Il veut dire « habiter en » ou « dans ». Le terme anglais est beaucoup plus beau, beaucoup plus poétique. « The indwelling of the Holy Spirit », l'Esprit qui demeure en nous. Mais tout le monde n'est pas obligé de parler anglais. Voici un extrait d'un de ses plus beaux sermons, qui porte justement le titre de « L'Esprit qui demeure en nous ». The Indwelling Spirit, qui illustre bien à la fois l'enracinement biblique de ce thème et l'usage que le prédicateur en fait. Je cite. Par exemple, saint Paul dit dans notre texte, « Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. » Romains 8, 9. Et encore, « Il donnera vie même à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Toujours Romains 8, 9. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit-Saint qui est en vous ? 1 Corinthiens 6, 19. Vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux et marcherai au milieu d'eux. 2 Corinthiens 6, 16. Le même apôtre distingue clairement entre l'inhabitation de l'Esprit et ses opérations en nous lorsqu'il dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous est donné. » Romains 5, 5. Et encore, l'Esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Le prédicateur propose ensuite son propre commentaire à travers quelques images fortes avant d'enfiler de nouveau des citations bibliques. Allons plus loin. L'Esprit Saint, ai-je dit, habite le corps et l'âme comme dans un temple. Ainsi, il nous envahit, pour ainsi dire, comme la lumière envahit un édifice ou un parfum délicat les plis d'une robe précieuse. Ça, c'est pour vous, mesdames. De telle sorte que, selon le langage de l'Écriture, on dit que nous sommes en lui et lui en nous. Dans le langage vigoureux de saint Pierre, le chrétien devient participant de la nature divine. De Pierre 1, 4. Il a, comme le dit saint Jean, le pouvoir ou l'autorité de devenir fils de Dieu. Ou, pour reprendre les paroles de saint Paul, il est une nouvelle création, le monde ancien s'en est allé, et toutes choses sont devenues nouvelles. Newman prend soin de préciser que cette présence de l'Esprit en nous est aussi la présence du Christ. On a parfois tendance aujourd'hui à parler de l'Esprit comme s'il était autonome, comme s'il flottait quelque part dans l'air, en oubliant le contexte trinitaire. Newman nous rappelle aussi l'enseignement de saint Paul pour qui c'est l'Esprit qui, par sa présence en nous, fait de nous des fils de Dieu. Une chose est de penser que nous sommes fils ou enfants de Dieu, autre chose est de faire l'expérience de la filiation. Il rappelle également l'enseignement de saint Paul selon lequel, au niveau le plus profond de la prière, c'est l'Esprit qui prie en nous. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissements inexprimables. Romains 8, 26. La prière commence toujours par être « mon travail, c'est moi qui prie ». Mais la prière est appelée à devenir petit à petit simple accueil d'une présence en nous. Newman souligne le fait que l'Esprit est également source d'amour, de pardon et de don de soi aux autres. Il cite encore saint Paul, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Nous avons tous une certaine capacité à aimer, mais nous aurons toujours besoin de puiser à la source pour pouvoir aimer plus et mieux. Newman nous invite à nous laisser devenir personnellement et communautairement le temple de l'Esprit. Il nous avertit que le cœur de chaque chrétien doit représenter en miniature l'Église tout entière et qu'il est inutile de vouloir changer l'Église institution si, en même temps, nous ne cherchons pas à changer notre propre cœur. Enfin, il réfléchit longuement sur le sens du salut et sur le rapport entre notre conception du salut et notre vie spirituelle. Le titre d'un sermon affirme que le salut ne vient pas de nous, nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, mais il doit se réaliser en nous. En nous. Le Christ nous sauve, dit-il, en nous transformant peu à peu en ce qu'il est lui-même. Ou encore, ce qui fut réalisé par le Christ il y a 2000 ans, par sa mort et résurrection, doit se réaliser aussi en chacun de nous aujourd'hui. Il est formé en nous, né en nous, souffre en nous, ressuscite en nous, vit en nous. Bref, pour Newman, le chrétien est celui qui accepte d'accueillir en lui une présence, qui travaille à la rendre réelle et efficace, qui se laisse petit à petit transformer intérieurement par cette présence, afin d'agir par elle dans le monde qui l'entoure. Je rappelle une dernière fois ma formule, notre manière de penser Dieu. Si telle était notre conception de Dieu, qu'est-ce que cela changerait à notre manière de le prier, de le chercher, à la nature de la relation que nous voulons vivre avec lui et à notre relation aux autres et au monde. Venons-en au deuxième thème, celui du rapport entre notre conception de la foi et notre vie spirituelle. Nous vivons dans une culture hyper-intellectualisée et nous avons le plus souvent terriblement intellectualisé notre conception de la foi. Le mot « foi » désigne le plus souvent aujourd'hui un contenu intellectuel, un ensemble d'idées ou de croyances. C'est ainsi que nous parlons d'annoncer la foi, de transmettre la foi ou de la non-transmission de la foi entre générations. Or, cette conception n'est pas fausse, et Newman lui-même, face à une tendance croissante dans la culture religieuse de son époque, vers la dilution du contenu doctrinal ou dogmatique de la foi, Newman se fait volontiers un défenseur acharné du dogme. Mais le sens biblique du mot « foi » est d'autre. Non pas un ensemble de croyances, mais une disposition fondamentale, une disposition de confiance en une personne. Lorsque Jésus, dans les nombreux récits de guérison que nous rapportent les évangiles, déclare maintes et maintes fois « ta foi t'a sauvé », il ne se positionne pas, par ainsi dire, en maître d'école, disant « tu as bien appris ton catéchisme, donc tu auras ta récompense ». Non, il parle de la foi comme une sorte de disposition intérieure, faite de confiance, de disponibilité, je dirais même d'une capacité d'accueillir ou de recevoir. Et l'auteur de l'Épître aux Éphésiens dit les choses encore plus clairement en déclarant que le Christ habite en vos cœurs par la foi. La foi est ici capacité d'accueillir en nous la présence du Christ. Je voudrais introduire ici une distinction que la langue française permet de faire, qui est précieuse, même si elle n'est pas toujours respectée dans le langage courant. C'est la distinction entre croire à et croire en. C'est une distinction que Newman ne pouvait pas faire au niveau de la langue, car la langue anglaise ne contient qu'une forme, to believe in. Mais il fait bien cette distinction au niveau de la pensée. Croire à désigne une démarche intellectuelle. C'est reconnaître intellectuellement l'existence de quelque chose. Je crois à l'existence de tel personnage historique ou à tel événement. Beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu veulent dire en réalité qu'ils croient à Dieu. Ils reconnaissent intellectuellement son existence, mais c'est tout. Ça ne change rien au cours de leur vie. C'est le sens parfois, mais pas toujours, de la célèbre formule « Je suis croyant, mais pas pratiquant ». Ça veut dire « Je crois à, je reconnais intellectuellement, mais ça ne m'engage à rien ». Croire en est radicalement différent. Croire en désigne une démarche existentielle et comprend une dimension personnelle et relationnelle. Au sens strict, on ne dit croire en qu'en parlant d'une personne. Un enfant croit en ses parents. Deux personnes qui s'aiment profondément croient l'une en l'autre. Croire en est inséparable, en fait, de l'amour et de l'espérance, comme la théologie chrétienne nous le rappelle en évoquant ce qu'on appelle les trois vertus théologales, foi, espérance et charité, ou amour. Or, qui dit amour, dit aussi désir. Croire en Dieu, avoir foi en Dieu, c'est le chercher, c'est désirer entrer en relation avec lui. Donc, croire en, avoir foi en, comporte non seulement une dimension intellectuelle, mais aussi une dimension éthique ou morale et une dimension spirituelle. Cela, Newman l'a parfaitement compris. Pour lui, la dimension intellectuelle est nécessaire, elle est même indispensable. Mais ce n'est pas elle qui nous sauve. Elle est au service d'une démarche spirituelle. C'est pour cela qu'il inscrit, non sans humour, en exergue de sa grammaire de l'assentiment, une formule de saint Ambroise. « Non in dialectica complacuit Deo salvum facere populum suum » qui peut se traduire par « Ce n'est pas par la dialectique, c'est-à-dire par le raisonnement, par l'argumentation, que Dieu a voulu sauver son peuple. » La nature de la foi reste au cœur de la pensée de Newman. Il se penche longuement sur ce qu'on peut appeler une psychologie de la foi ou même une phénoménologie de la foi. Il explore la manière dont nous en venons à croire, les fondements de notre foi, les dispositions profondes qui nous conduisent à croire ou à ne pas croire. Dans ce domaine, il est comme un explorateur en pays inconnu, sans carte ni boussole. Personne avant lui ne s'était autant penché sur cette question. Inévitablement donc, sa pensée est parfois hésitante. Il procède, pour ainsi dire, par paliers successifs. Et le sujet est d'une complexité presque infinie. Il faudrait tout un livre pour creuser ce thème chez lui. Je voudrais simplement donner quelques éléments de sa pensée sur cette question. Tout d'abord, derrière toutes ses réflexions sur la foi, se trouve un sens aigu de l'extraordinaire complexité et individualité de chaque esprit humain. Aucune analyse, dit-il, n'est assez subtile, assez délicate pour représenter exactement l'état de notre esprit quand nous croyons, ou les objets de notre croyance quand ils se présentent à nos pensées. Il reconnaît aussi que les mêmes mots peuvent recouvrir des réalités bien différentes. Même si plusieurs personnes, dit-il, paraissent parfaitement d'accord entre eux et soutiennent une même opinion, il est probable que chacune s'en fait une idée aussi dissemblable que leurs visages sont différents. À l'époque de Newman, le débat entre foi et raison fait rage. Newman cherche à renouveler ce débat en réfléchissant sur le sens de chacun de ces deux termes. Par exemple, il affirme que, pour autant que le mot « raison » désigne l'élaboration progressive d'un système de connaissances, en établissant des liens entre différents phénomènes ou idées, la foi constitue elle-même une forme de la raison. C'est une forme de raisonner, une manière de raisonner. En revanche, là où le mot « raison » désigne un instrument d'investigation ou de vérification, une instance purement critique, la foi constitue de son côté une force créative et un principe d'action. Car l'homme n'est pas un pur penseur, il est fait pour l'action. Il est appelé au cours de sa vie, et pas seulement dans le domaine religieux, à décider et à agir là même où il est dépourvu de certitude. Il est obligé de faire un acte de foi. Il en est ainsi d'une humaine de toute foi, et pas seulement de la foi religieuse. Cela dit, il affirme que toute foi religieuse est raisonnable. Elle possède un fondement ou une raison. Elle ne peut pas exister sans motif et sans objet. Le croyant n'est aucunement un être irrationnel. Seulement, encore une fois, la foi n'est pas simplement un phénomène intellectuel. Elle concerne l'homme dans sa totalité. Autre précision importante, la foi, pour être réelle, n'a pas besoin de pouvoir se dire. La foi ne s'identifie pas à la théologie. Il existe une foi implicite qui est tout aussi réelle et solide qu'une foi explicite. Et Newman se fait à plusieurs reprises le défenseur de la foi des gens simples. Cet intellectuel est aussi un pasteur qui possède une sympathie instinctive étonnante pour ceux qui ne possèdent pas les moyens intellectuels ou linguistiques pour s'exprimer clairement ou pour argumenter. Toutefois, religieuse aussi bien que non religieuse, dit Newman, repose sur des a priori, des présupposés, ce qu'il appelle parfois nos premiers principes. Il excelle à démasquer et à mettre en évidence ces a priori ou ces présupposés. Selon lui, tout processus de raisonnement, qu'il soit philosophique, scientifique ou religieuse, repose sur des a priori ou des présupposés, qui restent la plupart du temps inavoués et même inconscients. Il nous invite à chercher et à découvrir les nôtres. C'est à partir de ce constat qu'il se penche sur le rapport entre la foi et ce qu'il appelle nos dispositions morales. Sa pensée ici n'est pas toujours facile à saisir, et je voudrais proposer une approche en plusieurs étapes. Tout d'abord, partons de ce que je viens de dire sur nos a priori ou nos présupposés. La plupart des gens, à son époque comme aujourd'hui, semble considérer le christianisme comme une simple affaire d'opinion personnelle et subjective. On a même souvent l'impression, en matière de religion, que tout le monde aujourd'hui pense avoir le droit à une opinion personnelle, parce que, justement, la religion est considérée comme une simple affaire d'opinion subjective et rien d'autre. Et on applique ici une logique qu'on n'aurait jamais l'idée d'appliquer dans quelque autre domaine que ce soit. En matière de science, de technologie, d'histoire, etc., tout le monde accepte la nécessité d'examiner, d'étudier, de faire des recherches, de se documenter. Mais pas dans nos domaines religieux. Chacun a droit, dit-on, à ses opinions. Or, il est évident ici que ce que Newman appelle nos dispositions morales, nos préférences personnelles, nos désirs profonds, nos a priori vont jouer un rôle capital. Pour une part, nous choisissons de croire ou de ne pas croire en fonction de ses préférences, de ses désirs, de ses a priori, conscients ou inconscients. Mais ce n'est là qu'une première étape, et l'analyse de Newman va bien au-delà de cette constatation. Il estime que si l'on veut respecter la réalité des choses, on ne peut pas considérer le christianisme comme une simple affaire d'opinion ou un simple savoir abstrait. L'homme religieux, comme il dit, ne se contente pas d'un simple savoir sur Dieu. Il veut avancer aussi dans une certaine forme de connaissance de Dieu. Et cette connaissance exige, comme il le dit en faisant écho à saint Augustin, une préparation du cœur. Il illustre cette idée par une série de citations tirées du Nouveau Testament. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Matthieu 5, 8. Les mystères sont révélés au doux. L'homme spirituel est juge de toutes choses. 1 Corinthiens 2, 15. Les ténèbres ne l'ont point comprise. Jean 1, 5. Ainsi, conclut-il, les yeux grossiers ne voient pas, les oreilles dures n'entendent pas. Et on n'arrive pas à la vérité sur Dieu, je cite, au cours d'une soirée bien arrosée. D'une certaine manière, en effet, seul Dieu permet de connaître Dieu. Il nous faut la lumière divine. Dans une conférence de 1849, Newman, catholique, développe cette idée tout en faisant bien la distinction entre savoir et connaissance. Il interpelle son auditoire en ces termes. Vous demandez ce qu'il vous faut, en plus des yeux, pour voir les vérités de la révélation. Je vais vous le dire, il vous faut la lumière. Les yeux les plus pénétrants ne peuvent voir dans l'obscurité. Or, bien que votre esprit soit l'œil, c'est la grâce de Dieu qui est la lumière. Et vous pourrez aussi difficilement utiliser vos yeux dans ce monde sensible sans le soleil, que vous pourrez utiliser votre esprit dans le monde spirituel sans un don parallèle venu de l'extérieur. Je ne dis pas que vous ne puissiez avoir des idées concernant Dieu, ni que vous ne puissiez pas parler de lui. Cela est exact. Mais vous ne pourrez pas faire plus que de raisonner à son sujet. Vos pensées et vos paroles n'iront pas au-delà du simple raisonnement. J'admets donc ce que vous prétendez. Vous prétendez pouvoir, grâce à votre intelligence, bâtir des raisonnements au sujet de Dieu. Tout cela est sans doute vrai. Mais déduire l'existence de quelque chose n'est pas la même chose que de le voir, tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Enfin, la foi comporte une dimension spirituelle essentielle qui est liée à un mouvement particulier. Je suis frappé par un groupe d'expressions qui reviennent souvent sous la plume de Newman en parlant de la foi. On peut les traduire par « regarder hors et au-delà de nous-mêmes »,« sortir de nous-mêmes » ou encore « être projeté hors de nous-mêmes ». Il discerne chez l'homme qui cherche Dieu comme un double mouvement. Nous sommes invités à une démarche d'intériorité, à descendre au plus profond de nous-mêmes, mais ensuite cette présence que nous découvrons nous projette, selon ses propres termes, hors de nous-mêmes. Nous découvrons Dieu comme à la fois intérieur et extérieur, immanent et transcendant. Et nous sommes invités à nous tourner vers lui comme la source de tout, comme la source de l'amour, de la paix, de la joie. Comme la source aussi, c'est un thème auquel Newman est très sensible, comme la source de la beauté et de la sainteté. Et ces deux derniers termes sont souvent rapprochés par lui, dans une formule empruntée à la traduction anglaise des psaumes, « The beauty of holiness », la beauté de la sainteté. Enfin, et c'est ma dernière remarque sur la foi conduit finalement, pour Newman, à un désir de remise de soi entre les mains de Dieu, à ce que la tradition chrétienne appelle une spiritualité de l'abandon. Un passage d'un de ses sermons anglicans le dit avec éloquence. Qu'est-ce qu'on entend par la foi ? C'est éprouver profondément que nous sommes des créatures de Dieu. C'est comprendre que ce monde-ci ne suffit pas à notre bonheur. C'est regarder au-delà de lui, vers Dieu, devenir conscient de sa présence, l'attendre, s'efforcer de connaître et de faire sa volonté, chercher notre bien en lui. Avoir foi en Dieu, c'est s'abandonner à Dieu, lui remettre humblement ses intérêts ou désirer être admis à les remettre entre ses mains, à lui qui est le donateur souverain de tout bien. Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Pour Newman, c'est l'aboutissement final de la foi. Et je crois pour ma part, il a raison. Troisième thème, une conception de la vie chrétienne comme entraînement spirituel. Entraînement spirituel. La fin du Moyen-Âge a vu une séparation dont les conséquences allaient être à long terme catastrophiques, non seulement entre théologie et vie spirituelle, mais aussi entre morale et vie spirituelle. La morale est devenue une sorte d'en soi, une manière de plaire à Dieu ou d'être approuvé par Dieu, conçue maintenant comme étant purement extérieure à l'homme. L'homme était en face de Dieu, qui le regardait et le jugeait de l'extérieur. Le combat spirituel était devenu essentiellement un combat moral. Telle n'était pas la conception des premiers chrétiens, ni des pères de l'Église, ni de toute la tradition médiévale. Je m'amuse parfois à vouloir réhabiliter des mots et des concepts et ont acquis aujourd'hui une connotation péjorative. Vous l'avez vu pour le mot « dogme ». Il en va de même pour le mot « ascèse », qui a mauvaise presse aujourd'hui. Il signifie dans la tête la plupart des gens le fait de renoncer à de menus plaisirs, par exemple manger du chocolat pendant le carême. Le vrai sens du mot est tout autre. Il vient du grec « ascesis », qui est apparenté au mot latin « exercitium », qui donnera en français « exercice ». C'était un mot tout à fait banal dans le monde antique qui cherchait à désigner l'entraînement que s'imposait l'athlète ou le sportif qui voulait gagner la couronne de laurier du vainqueur dans les jeux du stade. On l'appliquait aussi à l'entraînement que s'imposait le soldat qui voulait apprendre à bien combattre. Et les premiers chrétiens ont adopté ce mot en se disant, nous aussi, nous avons un entraînement à pratiquer. Pas pour gagner dans les jeux du stade, et surtout pas pour devenir soldat, mais pour essayer de nous rapprocher de Dieu. Saint Paul utilise abondamment ces images. Dans les récits des premiers martyrs, les martyrs sont souvent décrits comme les athlètes de Dieu. Les pères de l'Église et les premiers moines évoquent abondamment les différents éléments de cet entraînement. Origène déclare que le jeûne est une condition nécessaire à la compréhension de l'Écriture. Saint Basile voit dans la vie communautaire un stade où s'exercent les athlètes qui y pratiquent un entraînement spirituel, entraînement continuel. Saint Athanase et saint Augustin emploient l'image des yeux qu'il faut nettoyer ou purifier si nous voulons voir la lumière. Saint Augustin, comme on l'a vu, utilise cette image de la maison qu'il veut ranger et nettoyer. Les pères du désert, les premiers moines, prônent le refus de juger autrui ou d'exercer un pouvoir, la maîtrise de la langue et la valeur du silence intérieur, l'unification de la pensée et des passions, l'acquisition de la liberté intérieure et la recherche de l'humilité. Or, quel est le sens du mot « moine » ? Le mot français vient du grec « monachos », qui vient de l'adjectif « monos ». Dans le grec classique, ce mot signifie « seul ». Mais dans le vocabulaire chrétien des premiers siècles, il change de sens. « Monos » veut dire non pas « seul », mais « un » ou « unifié ». Le moine est celui qui cherche à faire son unité intérieure, qui cherche à être « un » en lui-même, afin d'être « un avec Dieu. » Petite parenthèse, il m'arrive souvent de dire, avec le sourire, que dans ce sens-là, tout chrétien doit devenir un peu moine, soucieux de faire son unité intérieure. Mais notons bien qu'il s'agit d'un entraînement qui n'est pas seulement moral, mais aussi spirituel. Il s'agit d'un combat, non seulement contre le péché, mais aussi pour Dieu. En vue d'être plus attentif et plus disponible à Dieu, plus à même d'accueillir sa présence en nous, plus à même de devenir, selon une image qui remonte au moins à saint Augustin et à saint Grégoire de Nice, plus à même de devenir davantage capacité de Dieu. Dans cette perspective, la notion de péché prend un sens nouveau. Le péché n'est pas la simple faute morale, quoi qu'on en ait pu dire. Le véritable péché, le fondement du péché, c'est le refus conscient ou inconscient, de la grâce, c'est-à-dire du don que Dieu nous fait de lui-même. C'est le refus de nous ouvrir à la présence possible en nous du Christ. Le combat spirituel, c'est ce combat pour Dieu en nous. Il me semble que c'est l'un des paradoxes, sinon l'une des contradictions de notre monde aujourd'hui, que nous acceptons volontiers le principe de l'entraînement dans le domaine du sport, dans le domaine des études, ou même, pardonnez-moi mesdames, afin de garder la ligne. Et on n'a pas idée d'appliquer ce principe à notre vie spirituelle, à notre recherche de Dieu. Newman a parfaitement compris ce principe. Dans un sermon, il parle d'entraîner notre cœur pour qu'il puisse atteindre la plénitude des dispositions chrétiennes. Voici chez lui quelques éléments de cet entraînement. Il insiste sur l'importance d'une connaissance de soi, déclarant que la connaissance de soi est à la racine de toute véritable connaissance religieuse. Il critique la conception courante de la conversion, conçue comme un grand bouleversement affectif situé à un seul moment du temps. Il souligne le rôle du temps, la conversion comme processus. Toute notre vie est un processus de conversion. Il critique sévèrement l'affectivité ou l'émotion quand elle prend une place excessive, quand c'est elle qui mène et nous conduit à agir. Il souligne la nécessité du renoncement, c'est-à-dire la nécessité de faire le tri parmi nos désirs multiples et souvent contradictoires. Pratiquer le renoncement, ce n'est pas refuser arbitrairement, et encore moins dans un esprit de masochisme, des choses bonnes en elles-mêmes, c'est apprendre à choisir. Même humainement, c'est essentiel. Un tel travail est essentiel à la structuration de notre personnalité. Il n'y a pas d'approche plus destructrice de la personnalité humaine que celle exprimée dans le slogan de mai 68, « Tout, tout de suite ». Principe devenu aujourd'hui le principe qui sous-tend toute la publicité. Alors, qu'en est-il dans tout cela de notre relation à Dieu? Nous savons tous que nous sommes habités par une multitude de désirs et que souvent nous voulons des choses incompatibles les unes avec les autres. Ici encore, Newman nous invite à une démarche de réalisme. Choisir, renoncer est le seul moyen de tester la réalité de nos désirs, de distinguer entre ce qui est désir profond et durable et ce qui est simple velléité passagère. Ainsi, il déclare que le renoncement est le premier critère de l'authenticité de notre vie chrétienne. Il permet de discerner quels sont nos désirs profonds. Ce thème du renoncement est lié à celui de la maîtrise de soi. C'est en pratiquant des actes précis de renoncement que nous fortifions notre volonté. Les actes extérieurs, dit-il, accomplis par principe, crée des habitudes intérieures. Dans un autre sermon, il évoque cette maîtrise de soi en affirmant que, afin de posséder ce pouvoir, nous devons d'abord le gagner. L'un des mots-clés du vocabulaire newmanien est le mot « réel ». Il signifie le contraire de tout ce qui est purement théorique, tout ce qui est une pure vue de l'esprit, tout ce qui ne s'enracine pas dans l'expérience concrète. Entre parenthèses, j'ai l'impression parfois, en écoutant certaines homélies ou en lisant certains exposés théologiques, que ça manque de réel, dans le sens newmanien du terme. Chez Newman, il n'y a pas de condamnation plus forte et plus cinglante de dire qu'une idée ou une attitude est irréelle, unreal. Par exemple, en traitant de l'amour, il critique les discours idéologiques qui parlent d'aimer le genre humain tout entier. De tels discours ne sont, dit-il, que le simple fruit du libre cours de l'imagination. Ce n'est pas là aimer, mais simplement parler d'amour. Rappelez-vous Mirabeau, dans les premières années de la Révolution française, qui proclamait haut et fort son amour de l'humanité tout entière et qui haïssait sa propre famille. Or, dit Newman, seul l'amour de nos amis et de nos proches nous prépare à l'amour de tous les hommes. Il faut commencer par le concret proche, rester dans le réel. Il aborde le thème du rapport entre l'amour humain et l'amour de Dieu. Au XIXe siècle, on voyait souvent une opposition entre ces deux phénomènes. Dans la vie religieuse en particulier, on décourageait les amitiés fortes car on croyait qu'elles empêchaient d'aimer Dieu comme il fallait. Newman affirme au contraire que l'amour de Dieu s'enracine dans l'expérience humaine de l'amitié et de l'amour. Et tout célibataire qu'il est, il déclare que l'amour entre époux constitue un excellent terrain d'entraînement à cet amour de Dieu, car il apprend justement le décentrement de nous-mêmes, l'attention portée à l'autre. Il insiste sur l'importance de la prise en compte du temps dans tout cheminement spirituel. C'est un thème récurrent de sa pensée. Un bel exemple se trouve dans une lettre écrite à un ancien élève de l'école qu'il avait fondée, qui venait de se faire moine cistercien. Newman lui écrit pour le féliciter, mais aussi pour le mettre en garde, pour le prévenir que le discernement nécessaire dans le cas d'une telle vocation peut s'échelonner sur des années, pour le mettre en garde contre une réaction excessivement négative en cas d'échec, et pour l'inviter à prier alors pour la persévérance dont il pourrait avoir besoin dans 20 ans. Il propose aussi des observations intéressantes sur ce que nous appelons aujourd'hui la pratique religieuse. Le sens du mot aujourd'hui est très faible. Pour les premiers siècles chrétiens, le mot pratique désignait pas simplement le fait d'aller à la messe, mais tout le travail sur soi que le chrétien était invité à faire pour le rendre plus présent à Dieu. Ainsi, dans plusieurs de ses sermons, il présente le rôle de la vie liturgique et sacramentale comme une préparation à la rencontre avec Dieu et à la venue du Christ. Il dit qu'il faut préparer notre âme à la présence divine comme il faut exercer l'œil à supporter la lumière du jour et le corps à supporter le grand air. Il voit aussi dans la vie liturgique le lieu, si je puis dire, de l'incarnation de la foi, là où elle prend réellement chair, déclarant dans une formule retentissante, « Une religion abstraite, cela n'existe pas. » En anglais, « There is no such thing as abstract religion. » Il voit dans nos prières ce qu'il appelle un devoir nécessaire en vue d'acquérir un privilège. Le langage peut nous paraître désuet, mais il exprime une perception fondamentale et traditionnelle. La prière constitue un exercice spirituel destiné à nous rendre plus présents à Dieu. Et si nous voulons que la prière porte ses fruits, nous devons nous y exercer régulièrement. Enfin, il nous invite à pratiquer le recueillement, à sortir de temps en temps de l'agitation ambiante et du bruit incessant auquel nous sommes assujettis, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. Il nous invite à rentrer en nous-mêmes, à faire l'expérience du silence intérieur et d'une certaine solitude, mais d'une solitude habitée. Dans un de ses sermons anglicans, il nous invite à comprendre que nous avons une âme. Alors encore une fois, le langage peut nous paraître désuet, mais la pensée n'a rien perdu de sa pertinence. Comprendre que nous avons une âme, c'est éprouver que nous sommes séparés des choses visibles, que nous ne dépendons pas d'elles, que nous avons en propre une existence distincte, une individualité, le pouvoir de nous conduire de telle ou telle façon, la responsabilité de nos actes. Ainsi, nous comprenons petit à petit qu'il n'existe que deux êtres dans tout l'univers, notre âme et le Dieu qui l'a faite. Je voulais vous dire quelques mots rapides de ce que j'appelle l'humanisme spirituel de Newman. Je pense que je peux le dire en 5-6 minutes. Vous permettez que... L'humanisme spirituel de Newman. Il est vrai que dans ses premiers sermons, encore très marqués par un certain calvinisme, il peut paraître parfois assez raide. Mais peu à peu, il s'assouplit. Comme catholique, fondateur en Angleterre de l'oratoire de Saint-Philippe-Néri, il prend comme modèle Saint-Philippe dont l'humanité a été transfigurée par la présence en lui de l'Esprit Saint, sans qu'il ait rien perdu, ni de son humour, ni de ses excentricités. J'ai déjà souligné le sens profond chez Newman de la complexité et de l'individualité de chaque personne humaine. Ce sens se reflète aussi dans sa direction spirituelle. Par exemple, il reconnaît dans le contexte du chemin de conversion que chacun est appelé à suivre, que, je cite, Dieu agit avec chacun de nous différemment. Il n'y a pas de modèle standard. Vivant une époque où les autorités catholiques avaient l'obsession du nombre des convertis, Newman refuse de faire pression sur ceux qui cheminent à leur propre rythme. Il les invite à faire usage de leurs propres dons ou, comme il le dit, des moyens que Dieu leur a donnés. Il refuse d'imposer des formes particulières de dévotion, écrivant à une correspondante troublée par certaines dévotions alors en vogue dans le catholicisme, « Ce n'est pas un péché de trouver difficile de se faire à certaines choses. Il vaut mieux, en matière de dévotion, ne vous forcer en rien. » À une femme tourmentée par la perplexité et le doute, il conseille de continuer à remplir calmement ses devoirs d'État, ce qui l'aidera à rester confiante en l'aide éventuelle de Dieu. Il ajoute à son intention que Dieu ne l'appelle pas à rallier l'Église catholique avant d'être sûr qu'elle est bien l'Église. À la fille d'un de ses amis, une jeune femme pleine d'interrogations à l'égard de la foi, sans minimiser le poids des arguments intellectuels, il affirme, je cite, « qu'il existe quelque chose qui est dans un rapport plus intime avec la religion que le travail de l'intelligence, et que c'est notre conscience. » Et, un peu plus loin dans la même lettre, il déclare de nouveau, « pour arriver à des points de départ en matière de religion, nous devons interroger notre cœur, et puisqu'il s'agit là d'une chose personnelle, individuelle, notre propre cœur, interroger notre conscience, interroger, dis-je, le Dieu qui y habite. » À une époque profondément marquée par un certain jansénisme, qui voit une opposition entre nature et grâce, Newman rappelle maintes et maintes fois l'enseignement traditionnel de la théologie catholique exprimé dans la formule « Gratia perfecit naturam ». La grâce ne s'oppose pas à la nature, elle n'a pas besoin de détruire celle-ci pour agir, mais elle agit à travers la nature tout en la transformant. Et il s'adresse ainsi à ses confrères de l'oratoire, qui sont tous comme lui d'anciens universitaires. Viser à être quelque chose de plus que de simples universitaires, tels que nous l'avons tous été, laisser la grâce perfectionner la nature, et que nous tous, en tant que catholiques, sans cesser d'être ce que nous étions, soyons exaltés en quelque chose que nous n'étions pas encore. Ne rejetez pas ces avantages que Dieu vous a accordés, mais perfectionnez-les pour son service. Et chérissez, efforcez-vous d'acquérir le sens profond que ces avantages sont des dons et non de simples faveurs, des talents à améliorer, des prêts accordés par l'auteur de tout bien. Dans un sermon, il évoque les moyens que Dieu met en œuvre pour faire un saint à partir d'un pécheur. Voici les moyens que Dieu a prévus pour faire un saint à partir d'un pécheur. Il le prend comme il est et se sert de lui contre lui-même. Il canalise ses affections vers un nouveau but et éteint un amour charnel en infusant une charité céleste. Le triomphe de la grâce consiste en ceci, qu'elle entre dans le cœur de l'homme, le convainc et le gagne tout en le transformant. Dieu respecte totalement la structure originelle de l'esprit qu'il a donnée à l'homme. Il le traite comme homme. Il lui laisse la liberté de choisir telle ou telle façon d'agir. Il fait appel à tous ses pouvoirs, à toutes ses facultés, à sa raison, à sa prudence, à son sens moral, à sa conscience. Mais finalement, le principe animateur de la nouvelle vie, ce qui la fait naître et la soutient, c'est la flamme de la charité. Vous voyez donc, il y a encore de l'espoir pour nous. Et Newman va jusqu'à reconnaître que même nos erreurs et nos échecs peuvent nous aider à avancer sur le chemin qui conduit à Dieu. Il le dit avec un brin d'humour, car il n'est pas interdit, même dans une homélie, d'ajouter une petite note d'humour, même si les auditeurs ne la saisissent pas toujours. Et je voudrais conclure par cette citation que j'ai toujours trouvée personnellement d'une grande consolation. En péchant, en souffrant, en nous corrigeant nous-mêmes, en nous améliorant, nous approchons vers la vérité par l'expérience de l'erreur. Nous obtenons le succès à travers l'échec. Nous ne savons pas comment agir bien, sinon après avoir mal agi. Nous savons ce qui est bien, non de manière positive, mais négative. Nous ne voyons pas la vérité d'un seul coup pour nous diriger vers elle, mais nous nous jetons sur l'erreur pour en faire l'expérience et nous découvrons qu'elle n'est pas la vérité. Tel est le mécanisme par lequel nous parvenons au succès. Nous marchons vers le ciel à reculons. Nous visons de nos flèches une cible et pensons qu'il est bien adroit, celui dont les ratés sont les moins nombreux. Je vous remercie.
Le cardinal Newman, spirituel pour notre temps, vous venez de suivre la seconde et dernière partie de la conférence du père Kate Beaumont de l'Oratoire de France, président de l'Association française des Amis de Newman, conférence enregistrée le 19 mai 2009 à la maison diocésaine de Bayonne. Pour terminer, signalons que le cardinal John Henry Newman a été béatifié par le pape Benoît XVI le 19 septembre 2010 et canonisé par le pape François le 13 octobre 2019.